dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance,
Joseph Hula
et Dany Joulier.
L'éducation, telle qu'elle a été définie, elle était surveillée. Mais surveiller, ça ne veut pas dire enfermer. Et le choix qui avait été fait à la Libération, ça a été « ouvrons les établissements » qui représentaient des formes répressives, et puis on va développer quelque chose qui s'appelle le milieu ouvert, avec toujours de l'observation et ensuite de l'éducation. Donc deux séries de mesures. C'est-à-dire la primauté de l'éducatif sur le répressif et l'éducabilité du mineur avec la positivité des mesures éducatives. Donc je fais un rapport au garde des Sceaux, et ce rapport est destiné à M. Alain Perrefitte, le père de la loi Sécurité et Liberté. Donc ce rapport, je n'entends pas parler, et quelques jours après, tout le monde arrive avec Libération, première page. Les centres fermés d'aujourd'hui, ce sont des établissements qui pour moi ressemblent étrangement à l'administration pénitentiaire.
Donc une régression depuis ces années-là.
C'est une régression.
Jean Guéry nous accueille aujourd'hui dans sa maison de Tournon en Ardèche.
Alors qu'en 2020, la réforme de la justice pénale des mineurs est à l'ordre du jour, Dissonance a tenu à rencontrer ce retraité de la protection judiciaire de la jeunesse dont il est directeur régional honoraire, car il est aussi l'un de ceux qui pensent haut et fort qu'un enfant qui passe à l'acte est avant tout un enfant en danger, un enfant en souffrance. Dans l'enfant délinquant, ce qui prime pour Jean Guéry, c'est l'enfant. Pour lui, son leitmotiv dans toute sa carrière, c'est accompagner un enfant dans toutes les dimensions de sa problématique pour participer à sa sortie de délinquance.
La primauté des mesures éducatives sur les mesures répressives, c'est le socle de l'ordonnance du 2 février 1945. Ce texte de loi avait permis la création d'une administration séparée de l'administration pénitentiaire, chargée d'élaborer des solutions éducatives pour les mineurs délinquants. On passait des bagnes pour enfants, des colonies pénitentiaires, au centre éducatif ouvert.
Mais chassé de naturel par la porte, il revient par la fenêtre. L'idée de créer des centres éducatifs fermés, antichambre de la prison, germe au milieu des années 1960. Mais avant de généraliser ces structures, le gouvernement d'alors veut expérimenter un centre éducatif fermé. Ce sera à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne.
Et c'est Jean Guéry, notre invité d'aujourd'hui, alors directeur de ce centre de Juvisy, qui va réussir à faire ouvrir les grilles de cette structure et ainsi à tuer dans l'œuf ce projet de généralisation des centres éducatifs fermés.
25 ans après, en 2002, avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, les premiers centres éducatifs fermés réapparaissent. Il y en a 52 aujourd'hui.
Au 1er juillet 2019, 882 adolescentes et adolescents sont derrière les barreaux, chiffre jamais atteint depuis plus d'une vingtaine d'années. Il faut y ajouter le nombre d'enfants placés dans l'un de ces 52 centres fermés, ceux placés en psychiatrie ou en centre de rétention, ainsi que le chiffre des jeunes condamnés en tant que majeurs pour des faits commis du temps de leur minorité.
Dans Dissonance, aujourd'hui, il sera question de la réforme de l'ordonnance de 1945 et du projet de code de la justice pénale des mineurs que l'actuelle garde des Sceaux, Madame Belloubet, veut mettre en place au 1er octobre 2020.
Dans Dissonance, Jean Guéry évoquera ce projet présenté comme innovant et tourné vers l'éducatif, mais ne prévoyant en réalité aucune mesure susceptible de renverser véritablement le paradigme de ces dernières années. à savoir l'augmentation des mesures répressives et expéditives à l'égard des enfants.
Dans Dissonance, Jean Guéry va nous raconter comment il a contribué en 1979 à ce qu'Alain Peyrefitte, garde des Sceaux, le père de la triste loi Sécurité et Liberté, renonce à son projet de création de centres éducatifs fermés.
Aujourd'hui, Dissonance tient à faire entendre la parole de Jean Guéry, car il voit revenir ce contre quoi il s'est toujours battu. Dissonance avec
Jean Guéry.
Alors tout d'abord, je dois dire que je suis né dans le suburb de Rouen, dans une famille pauvre, où j'ai été distingué par un instituteur résistant communiste. Donc en 1946, je rentre en sixième, et hélas, au cours du mois d'octobre, je perds ma mère. Va se dérouler pour moi une autre vie, qui était celle d'un enfant de libre penseur, communiste, engagé, résistant. Et je vais, grâce au bon père, obtenir la gratuité d'études secondaires avec 2 années de philosophie scolastique. À ce moment-là, je prends mon essor, je deviens pion à l'école normale de Montbrison, puis je découvre le métier d'éducateur à la sauvegarde de l'enfance du Maine-et-Loire. Je pars à l'armée pendant 28 mois. Et à mon retour de l'armée, je rentre tout naturellement à l'éducation surveillée qui offrait une carrière beaucoup plus intéressante que celle du secteur privé de l'enfance inadaptée de l'époque. Quand j'arrive, c'est en janvier 58, à Lyon, au centre d'observation publique d'éducation surveillée, j'ai tout à découvrir. J'avais déjà évidemment effectué, quand j'étais dans le Maine-et-Loire, un transfert d'un mineur chez le juge des enfants Puzin. Je dois dire que c'est le jeune qui m'a emmené d'Angers à Paris, parce que je ne connaissais pas Paris, lui était parisien. Je lui ai payé le repas de midi, en tête à tête, et le juge l'a foutu au trou dès son arrivée. J'ai eu une impression de ne pas être là où je pensais que l'on pouvait être en tant qu'éducateur. Donc en 58, je suis à Lyon. À Lyon, je suis enthousiasmé par mes collègues qui ont de l'expérience et qui savent enseigner. À l'issue de ce séjour, je passe le concours, je le réussis pour aller en formation à Vaucresson. Et je suis affecté en stage à Saint-Jodard dans la Loire. Saint-Jodard était une IPES, Institution Publique d'Éducation Surveillée, où là je découvre les relents de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire un mitard avec une quinzaine de cellules, où ceux qui ont commis des infractions dans la vie quotidienne sont mis à l'isolement pendant un certain temps et où on porte le matin la gamelle et où on retire le pot de chambre qui a été utilisé pendant la nuit et la journée. Et puis je m'aperçois que les jeunes sont affectés par groupes de 25 à 30 et qu'ils couchent, on pourrait dire dans des chambrettes, mais ce sont des cages à poules. C'est-à-dire que ce sont des cellules à l'intérieur d'une grande pièce qui sont commandées le soir au coucher, comme le matin au lever, par une manivelle. Et je vois qu'au petit déjeuner le matin, chacun s'en va à la cuisine chercher un énorme pain dont il coupe quelques tranches pour pouvoir prendre un petit déjeuner et jette le tout par terre. Je suis révolté, je fais en sorte qu'il n'y ait plus de brouette pour ramasser les pains qui traînent par terre, et c'est moi le matin qui vais chercher les pains et qui les débite en fonction du besoin demandé de ces jeunes-là. À l'époque, les mineurs étaient placés en établissement par les juges des enfants jusqu'à la majorité, c'est-à-dire jusqu'à 21 ans. Il faudra attendre la loi giscardienne pour que les mineurs deviennent majeurs à 18 ans. Alors ça me permet de dire que centre d'observation publique d'éducation surveillée, institution publique d'éducation surveillée, sont en 1945, au moment de la promulgation de l'ordonnance du 2 février 1945, qui s'honore d'avoir eu le général de Gaulle et François de Menton comme garde des Sceaux, pour supprimer les maisons d'éducation surveillées qui étaient dans l'apanage de l'administration pénitentiaire. Donc il faut bien faire cette césure. L'éducation surveillée en septembre-octobre 1945 est une administration autonome qui veut se doter de moyens nouveaux avec des personnels nouveaux qui vont s'appeler des éducateurs. D'ailleurs, le premier statut d'éducateur sera de 1945 et il sera revu en 1956, le 23 avril.
Est-ce qu'on peut dire, Jean, excusez-moi, que cette ordonnance introduit la notion d'éducabilité chez le mineur délinquant ?
Oui. Alors, ça, c'est extrêmement clair. L'ordonnance est précédée d'une longue gestation. En 1791, la minorité est à 16 ans. Mais en 1912, il y a la création des tribunaux pour enfants et d'une mesure qui va s'appeler la liberté surveillée. Mais on est toujours avec des mineurs encadrés par des gardiens et des surveillants, à l'exception d'un établissement qui s'appelle Maitré, dont Jean Genet dira beaucoup de mal ultérieurement, et je crois que c'est à raison. Et puis on a les campagnes de presse entre 34 et 37 contre les bagnes d'enfants, avec la révolte de Belle-Île-en-Mer, on voit arriver Alexis Danan, on voit arriver Jacques Prévert avec son poème « La chasse sur l'enfant ».
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a c'est que ces hurlements. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chenapan, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Bandit, voleur, ces messieurs sur le rivage, sombre, douille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent?
Dissonance avec
Jean Guéry.
Il y a une volonté de réforme entre 37 et 39, puis 42-45, on voit là déjà une volonté de réforme, et notamment sous Vichy, un garde des Sceaux qui s'appelle Barthélémy, qui a un projet, mais qui ne verra pas le jour, c'est l'abandon du répressif, la critique des bons pasteurs, où on enfermait les filles, la réorganisation des colonies. Et les colonies, c'était les lieux où étaient enfermés les mineurs, pénitentiaires évidemment, maritimes, industriels et agricoles, et le contrôle du secteur privé. Donc, l'ordonnance de 1945, c'est un grand coup de tonnerre de la libération, et l'ordonnance s'annonce, trois adjectifs, libéral, pratique et simple, avec dans l'exposé des motifs, une phrase qui a fait beaucoup de bruit et dont il faudrait se souvenir aujourd'hui Je cite, « La France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. » Fin de citation. Donc il faut un cadre juridique, il faut un cadre judiciaire adapté, et il faut des moyens. Donc on a une procédure inquisitoire, ce n'est pas nouveau, peu de formalisme, souplesse procédurale, confidentialité de la procédure, nécessité de la défense, débat contradictoire, etc. Donc on en est déjà sur la suppression de la notion de discernement. A-t-il fait l'acte délictueux en connaissance de cause ou non? Alors ça va être un grand débat. On va spécialiser les magistrats, les juges des enfants, qui seront les personnages emblématiques de la réforme. On impose l'observation obligatoire des mineurs, et l'observation, ça se fait dans les centres d'observation publique d'éducation surveillée. Et évidemment, le contrôle du secteur privé, qui à l'époque avait pris son essor, menait ici ou là des expériences plus ou moins intéressantes. Il y a un homme dont il faut citer le nom, c'est le juge Chazal. Chazal de Mauriac, qui déjà en 1942 a mis la main à la préparation de l'ordonnance, qui est le seul magistrat spécialisé du tribunal pour enfants de la Seine. Et puis deux autres personnages emblématiques, le docteur Huyère, qui était à la Salpêtrière, et le docteur Lafont, qui était à Montpellier. Voilà des gens qui soutiennent une volonté de réforme. Mais évidemment, entre la volonté de réforme, entre l'ordonnance qui est prise et son application, on voit bien qu'en 1958, quand je vais à Saint-Jeudard, je retrouve encore des relents, évidemment, de l'administration pénitentiaire. Et les autres IPES héritées des maisons d'éducation surveillée, comme Saint-Hilaire à côté de Fontevraud, comme Saint-Maurice à côté de la Motte-Beuvron, et d'autres, Belle-Île-en-Mer, fonctionnent à peu près sur le même régime. Donc les éducateurs ici sont en déphasage complet par rapport à l'enseignement qui leur a été donné, notamment au centre d'études, de formation, de recherche, de l'éducation surveillée, de Vaucresson. Voilà. C'est que l'éducation surveillée s'est battue pour être inscrite au quatrième plan. Le plan, c'était le moyen de planifier, finalement, les investissements de l'État sur 5 ans. Donc, au plan successif, l'éducation surveillée était inscrite pour un certain nombre de places d'éducation en centre fermé.
C'est une nouvelle notion, ça, éducation en centre fermé.
Alors, l'éducation, telle qu'elle a été définie, elle était surveillée. Et ça n'est pas contradictoire de dire qu'une éducation doit être surveillée. Mais surveillée, ça ne veut pas dire enfermée. Et le choix qui avait été fait à la Libération, ça a été « ouvrons les établissements qui représentaient des formes répressives ». Et puis on va développer quelque chose qui s'appelle le milieu ouvert, c'est-à-dire qu'on suit les mineurs dans leur milieu naturel de vie, avec toujours de l'observation et ensuite de l'éducation. Donc deux séries de mesures qui, parallèlement, pouvaient être en établissement ou bien en milieu ouvert. Mais l'opinion publique ne se faisait pas à l'idée qu'un voleur récidiviste puisse se promener dans sa ville. Donc le législateur prévoyait des centres fermés. Juvisy est donc créé à titre expérimental.
Est-ce que c'était un centre éducatif fermé, Juvisy ?
Juvisy était un centre d'observation publique d'éducation surveillée, fermé, à titre expérimental, c'est-à-dire que l'administration était extrêmement prudente, elle n'a pas mis le doigt de « j'en fais partout ». Voyons voir comment Juvisy va marcher et on verra ensuite.
Excusez-moi Jean, et vous à titre personnel, vous avez été d'accord de jouer ce rôle de testeur, de directeur de...
Alors c'est très compliqué ça. Parce que je me trouvais à l'époque directeur d'un foyer d'action éducative à Villiers-sur-Marne et on m'avait demandé si ça m'intéresserait d'aller en centre, centre fermé de Juvisy. J'avais dit aux deux sous-directeurs qui étaient en charge de cette affaire à l'administration, M. Deville et M. De Thévenard, oui, pourquoi pas, mais moi j'ai une visée qui est une visée qui est celle de l'ouverture. Deville m'avait dit on verra, et De Thévenard m'avait dit oui, Guéry, allez-y, poussez les pions. Donc j'arrive après le premier directeur de Juvisy, M. Leclerc, qui pendant 7 ans a fait marcher l'institution telle qu'elle avait été déterminée et définie. Et moi, dès l'arrivée, je suis un peu choqué, par les deux grilles successives de pénétration dans l'établissement. Quand un mineur était amené du dépôt, les gendarmes ou la police s'arrêtaient entre les deux grilles. Ils enlevaient les menottes aux mineurs et on les faisait passer à la seconderie pour accéder à l'établissement. L'établissement, c'était 6 pôles de 12 places chacun, autrement dit 72 places. Il n'y a jamais eu le personnel d'encadrement pour les 72 places, donc ça a toujours fonctionné en gros à 50%. Ce qui me surprend, c'est que le bâtiment administratif, les cuisines, l'infirmerie, les secrétariats techniques, le service psychologique, il y avait même un cabinet dentaire et un cabinet de radiologie pour que les mineurs ne sortent pas. J'ai immédiatement supprimé le cabinet dentaire et le cabinet de radiologie en disant à l'infirmière, vous emmènerez à l'extérieur les mineurs passer les visites préconisées par le médecin de l'établissement. Ça a fait déjà quelques grincements de dents. Et je me suis aperçu que les personnels qui étaient là et que je viens de nommer ne passaient jamais de l'autre côté de la clôture. Donc j'ai fait percer une porte entre le bâtiment administratif et le bâtiment, les bâtiments, les ateliers, le gymnase et le terrain de sport. Évidemment, une espèce d'angoisse qui est montée dans l'institution où les femmes ne me le disaient pas, mais me le faisaient savoir, elles avaient peur que les mineurs, évidemment, pénètrent. Et qu'est-ce qui pouvait leur arriver à ces pauvres femmes? Je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, jusqu'au jour où j'ai décidé que le mess deviendrait mon bureau, en disant au personnel qui mangeait au mess, la cantine si vous voulez, il y a une cantine à Savigny qui était l'établissement voisin de l'autre côté de la vanne, c'est-à-dire du boulevard et de cette espèce d'aqueduc souterrain qui alimente Paris. Allez manger là-bas, vous serez avec vos autres collègues, ça sera beaucoup mieux pour vous que de rester entre vous ici. Et pour les mettre dehors, j'ai dit le mess, c'est mon bureau. Et l'ancien mess, j'en ai fait autre chose. Voilà. Évidemment, ça n'a pas été très très bien vécu. Puis j'ai obtenu de l'administration des crédits pour faire que les mineurs ne mangent plus à l'intérieur du choc pavillon de 12, il y a une salle à manger, où je disais au personnel, vous pouvez manger là si vous voulez. Je dois dire que je n'ai pas eu grand succès.
Et vous mangez où?
Eh bien, je mangeais avec les gamins. Les gamins, comme on disait, avec les adolescents. Et alors, Juvisy, il y a eu tellement de précautions, mai 68 étant arrivé avant le départ de M. Leclerc, mon prédécesseur, qui est parti en 74. Juvisy avait été approuvé au congrès syndical du syndicat majoritaire, le SNPES, qui était de la FEN, à l'époque. Mais 68 étant passé, c'était une anathémisation de cet établissement. Donc cet établissement n'a reçu comme personnel que les sortants de l'école. Leur première expérience ayant été celle-là, ils n'imaginaient pas, parce qu'il y avait du confort, qu'on le veuille ou non. Le service se quittait à 21h, Et moi, j'ai dit non, c'est pas possible. On ne couche pas les jeunes à 21h. Le service ira jusqu'à 22h30, 23h. Donc voilà, ça a été une bagarre. Et le jour où il y a eu des difficultés, où un jeune s'est rebellé, qui s'est barricadé dans un pavillon, que le pavillon s'est mis avec lui, j'en ai rendu compte, il devait être 20h du soir à l'administration centrale. Ben, j'avais trois téléphones sur mon bureau. Un téléphone direct avec le commissariat central, un téléphone direct avec l'administration centrale du Place Vendôme, et puis un téléphone normal. Alors je rends compte et le magistrat de permanence me dit « Je vous envoie une compagnie de CRS pour mater la rébellion ». Alors j'ai réuni les éducateurs de service dans mon bureau et j'ai dit « Voilà, les CRS sont arrivés ». Quand ils seront là, je leur dirai de rester à la grille dehors et que nous allons nous charger de régler le problème. Nous l'avons réglé, je dois dire, peut-être un peu manu militari, mais nous l'avons réglé. Donc, les choses sont restées en l'état. Et le jeune qui avait mené cette sarabande a été présenté à son magistrat instructeur. Il était de Nîmes, donc il a été renvoyé sur Nîmes et je crois qu'il a été incarcéré. Mais parce qu'il avait un casier judiciaire à rallonge. Alors, Juvisy, il y a eu des précautions procédurales. L'administration avait décidé, au grand dam des magistrats, indépendants, que tous ne pourraient pas placer, ne pouvaient placer que les juges d'instruction. Alors, les juges d'instruction du Val-de-Marne, notamment. Il y en avait trois avec lesquels ça marchait très bien. Quelques juges des enfants, mais pas toute la région parisienne. Ils ne pouvaient placer qu'au titre de l'observation du comportement, de la personnalité, pour une durée d'un mois renouvelable une fois. Et évidemment, j'ai observé beaucoup de perversions. Des juges des enfants s'emparaient de mineurs qui normalement relevaient de l'ordonnance du 23 décembre 58, qui est l'ordonnance civile de protection de l'enfance, le danger avéré, au motif que, voilà, il y avait des difficultés du comportement qui amenaient des actes de délinquance. Donc c'était un espèce de biais pas du tout sain. Donc les jeunes se disaient, lui il n'a rien fait, il est là, moi j'en ai fait, je suis là. Et une fois que l'observation de la personnalité avait été faite, donc examen psychologique, psychiatrique, comportemental, physiologique, enfin c'était très complet, était rendu, normalement, Juvisy n'avait plus de compétences. Mais que faire? Le juge disait, moi je ne sais pas où le mettre, gardez-le. Et nous, on faisait des démarches. Alors on dit, de Juvisy? Ah non, non, on n'en veut pas. Nos collègues eux-mêmes ne voulaient pas des mineurs qui relevaient du placement à Juvisy. Trop difficile. Il n'est pas fait pour nous. Il est fait pour qui? Alors, à un moment donné, j'ai dit, ben, ceux qui restent là, on va organiser quelque chose. Donc, on s'est organisé comme une IPES, Institution publique d'éducation surveillée. Donc, on a donné de la formation scolaire, la formation professionnelle. On les a amenés à sortir à l'extérieur, à participer à des compétitions sportives et à aller de temps en temps dans leur famille, par exemple en fin de semaine, avec l'autorisation évidemment du magistrat. Ce n'était pas toujours gagné. Donc c'est devenu un établissement bâtard. Il était fermé mais ouvert. Il était ouvert mais fermé. Et évidemment, à un moment donné, l'administration m'interroge, je dis, ben voilà, il faut que l'on continue l'ouverture. Alors j'avais déjà fait sauter une grille, la grille extérieure. En restait une autre, qui était celle de la clôture. Mur de 6 mètres de haut, saut de loup. De l'extérieur, on ne voyait rien, c'était parfait, c'était un mur d'enceinte. À une hauteur pratiquement normale, style 2,50 m. Mais quand on arrivait au bord du fossé, on s'apercevait que la base du mur, elle était très profonde.
Alors, comment s'est finie cette expérience juvisienne?
Alors, l'administration... Alors, moi, mes penchants, Monsieur de Thévenard me dit, écoutez Guéry, vous commencez à m'emmerder, vous faites 6 mois tout ouvert, 6 mois tout fermé, vous verrez bien comment ça marche. J'ai dit, monsieur de Thévenard, j'ai compris. Donc à partir de là, j'ai ouvert. Et il m'a dit, mais je veux un rapport. Donc je fais un rapport au garde des Sceaux, et ce rapport est destiné à monsieur Alain Perrefitte, le père de la loi sécurité et liberté. Donc ce rapport, je n'entends pas parler, et quelques jours après, tout le monde arrive avec Libération, première page. Cocotte minute.
C'était votre rapport qui était
C'était
médiatisé.
Mon rapport. Première page de Libération. Gros titre en gras. Cocotte minute. Voilà. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Donc je suppose que l'administration l'a balancé, comme habituellement on balance au canard enchaîné. Donc le directeur, M. Daza, on avait un challenge national d'affrontement sportif qui se déroule à Savigny, et il me dit, venez avec moi pour donner le coup d'envoi de la finale de football. Et il me dit, ça y est, il a signé hier, il, le garde des Sceaux, M. Perrefitte, il dit, voilà, maintenant il faut qu'il me nomme vite à la Cour de cassation, parce qu'il va s'apercevoir très rapidement qu'il a signé quelque chose qu'il n'aurait pas dû signer.
Oui, parce que votre rapport, Jean, était à charge contre les centres éducatifs fermés.
Oui, absolument. Absolument. Donc, à partir de là, il n'y a plus eu de centre fermé à l'éducation surveillée.
On est en 1979.
C'est ça. Et je voudrais ajouter qu'après 68, des établissements nouveaux, comme à Lille et à Toulouse, avaient un certain nombre de places de sécurité intérieure, aménagées comme telles. Et sous la pression syndicale du SNPES-FEN, ça a été abandonné. Donc l'air du temps n'était pas à la répression.
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvre, on ne sait pourquoi, je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit, c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fif des deux fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. Bah, soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gare au gorille. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Qu'une alternative pareille, un de ces 4 jours mes choix, c'est, j'en suis convaincu, la vieille qui sera l'objet de mon choix. Gare au gorille. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Gare au gorille. fille. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu, car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garoguerie.
Dissonance avec
Jean Guéry.
Les centres fermés ont été remis à l'actualité en 2002.
Le JT de 20h d'Antenne 2 du 5 juin 2002, dans lequel intervient Jean Guéry.
Pour les mineurs délinquants, plus de places dans les prisons, mais aussi la création de centres éducatifs fermés. Il est question d'en construire un par département doté de 40 places. Alors la création de ces structures fermées ne serait pas une première en France. On se souvient par exemple des maisons de correction. Le dernier établissement de ce genre a fermé ses portes il y a 25 ans. Pourquoi et dans quelles conditions? C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Agnès Gardet, Jean-François Monnier.
Maitray, petite commune d'Indre-et-Loire, a jamais connu pour son bagne d'enfants. L'ouverture officielle remonte à l'année 1840. De toute la France, les enfants quittent leur prison pour cet établissement qui ne dit pas encore son nom. Régime extrêmement sévère, travaux forcés, conditions de vie précaires.
En arrivant, on m'a mis dans une cellule, on m'a fait déshabiller, nu. La cellule était environ peut-être 11h, 11h30. Jusqu'à 16h, je suis resté là, à attendre, tout nu, la cellule.
Au bout du jardin, le cimetière, où reposent les corps de 200 enfants. Morts d'épidémie, selon les uns, morts suspectes pour d'autres. Des soupçons qui viendront alimenter une campagne anti-bagne. Dans les années 30, ces établissements disparaîtront progressivement. L'ordonnance du 2 février 45 sur l'enfance délinquante crée le métier d'éducateur, au nom d'un principe, la primauté de l'éducatif sur le répressif. C'est le temps de l'éducation surveillée, et de ces maisons de correction où s'entassent des jeunes gens par dizaines. L'idée des centres fermés a germé au milieu des années 60. Il fallait alors créer 1500 places de sécurité, alternatives à la prison, d'où les délinquants ne pourraient s'enfuir. À l'abandon aujourd'hui, ce complexe de petits pavillons, unique expérience en France de centres fermés.
Les portes étaient fermées à clé de nuit. Il y avait possibilité d'interrompre l'électricité à l'intérieur par des disjoncteurs individuels. Et la fenêtre qui éclaire cette petite chambre de cellule monacale est une fenêtre qui ne pouvait pas s'ouvrir.
Et faite d'un verre à l'épreuve des balles. Un mur d'enceinte de 6 mètres de haut, un monde clos spécialement conçu pour empêcher les évasions. Pour son ancien directeur, une cocotte minute prête à exploser à tout moment.
Il ne faut pas que la sécurité prenne le pas sur l'éducation, sinon on est dans une prison qui ne veut pas dire son nom.
C'est-à-dire qu'on était obsédé. Vous étiez obsédé par...
On est obsédé par le nombre, par les portes, par les clés, par où il est, qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il n'est pas là. Et quand on est mobilisé comme ça, on est moins mobilisé sur l'éducation, la famille, l'extérieur.
Une vie en autarcie émaillée de bagarres et de révoltes, conduisant peu à peu à l'échec de l'expérience. Il y sera mis fin en 79 après les résultats d'une étude. 100% de récidive, les 700 pensionnaires ont tous, après leur passage ici, connu la prison.
Alors, il faut d'abord se souvenir que le garde des Sceaux de l'époque, qui est devenu le défenseur des droits aujourd'hui, Monsieur Toubon, avait préconisé des centres d'éducation renforcés. Ça voulait dire déjà avoir des établissements où la poigne soit plus importante que dans les établissements qui existaient.
Mais toujours ouvert, sans enceinte,
mais
sans
grille. Mais toujours ouvert. Centre éducation renforcé, ça voulait dire plus de personnel, plus de pratiques, plus de technologies, mais pas de fermeture. Parce que moi, quand je commence ma carrière au CO de Collonges au Mont-d'Or, les mineurs, le soir, sont enfermés à clé dans leur chambrette. Je découvre Saint-Jodard et j'ai parlé des cages à poules. Et tout ça, ça va sauter. Après, dans les foyers d'action éducative, aucun mineur n'était enfermé dans sa chambre. Donc le centre éducation renforcé, c'est déjà une volonté de revenir un peu à la serrure. Et peut-être ne le savez-vous pas, quand j'entame, au nom du député PRG, dont j'étais l'attaché parlementaire, une défense de l'ordonnance du 2 février 1945, j'envoie à pétitionner un certain nombre de textes. Et le texte de la pétition préconisait évidemment la défense pleine et entière de l'ordonnance, c'est-à-dire la primauté de l'éducatif sur le répressif et l'éducabilité du mineur avec la positivité des mesures éducatives. Ce texte sera signé par un très grand nombre de magistrats, y compris les magistrats qui étaient passés dans mon administration. D'ailleurs, à mon initiative, avec évidemment l'accord de mon ami député,
qui s'appelait
Jean Pontier, mon voisin, député PRG, sous Jospin, je réunis à l'Assemblée nationale un certain nombre d'anciens directeurs, y compris le directeur actuel, M. Charvet, Mme Ezrati, première présidente de la Cour d'appel de Paris, etc., etc. Tous ces gens-là signent. Donc j'ai un certain nombre de signataires, et je dois dire que cette pétition, arrivée chez le garde des Sceaux de l'époque, n'a pas fait grand bruit. Alors la volonté que je trouve, parce que j'interroge au nom du député les deux prétendants principaux de la campagne électorale, Jacques Chirac et Lionel Jospin, envoient une lettre programmatique qui se termine toutes les deux en copier-coller de la même manière. « Si je suis élu président de la République, nous ouvrirons des centres fermés. »
C'était clair.
Jospin exit, Chirac ici, évidemment. La politique du centre fermé avait son ouverture, si je me permets le jeu de mots. Alors, quelle différence entre Juvisy, centre fermé, 70-79, et les centres fermés d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, ce sont des établissements qui, pour moi, ressemblent étrangement à l'administration pénitentiaire.
Donc, une régression depuis ces années-là.
C'est une régression. Je dirais qu'elle va dans le sens général de ce que souhaite l'opinion publique. Et les élus, eh bien, ils reflètent cette opinion publique. Autrement dit, l'éducation, ça passe après la répression. Au jour d'aujourd'hui, la politique du garde des Sceaux actuel qui est annoncée, Madame Belloubet, paraît assez intéressante par un certain nombre d'aspects qui me rappellent d'ailleurs des choses anciennes.
Et avant, il y avait même eu Madame Taubira qui avait un regard critique.
Oui, alors tous les gardes des Sceaux ont toujours eu des regards pour avoir des évaluations sur la politique, centre éducatif renforcé, centre fermé, mais tout ça, ça se concrétise par rien. Hein ? Voilà.
Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme, ouvrant un livre, y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire doucement à cette humble lueur, donc au petit enfant donnez le petit livre, marchez, la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. La nuit produit l'erreur, et l'erreur l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, tristes instincts qui vont, les prunelles crevées, aveugles effrayants, au regard sépulcral qui marche à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits,
c'est notre loi première. Et du suif le plus vil, faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas. Le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas ne vit pas. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Ces voleurs avaient le droit de vivre. Songeons-y bien. L'école en or change le cuivre, tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor. Leur pensée, immortelle, auguste et nécessaire, je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous à qui le jour sourit et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte? Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne.
Avec
Jean Guéry.
Alors, je voulais vous parler du projet du gouvernement Belloubet. Madame Belloubet veut faire un réformant l'ordonnance de 45, qu'il a déjà dû l'être une vingtaine de fois, mais qui avait conservé quand même la substantifique moelle, l'éducation avant la répression. C'est un nouveau code pénal des mineurs qu'elle pense pouvoir mettre en place, en application, au 1er octobre 2020, et qui viendrait remplacer l'ordonnance pénale dont on vient de parler. Les principes sont les suivants. Une justice spécialisée avec un juge unique, le juge des enfants, tant au civil qu'au pénal. Je dirais que là, c'est exactement ce qui se passe. Sauf que le juge unique, au jour d'aujourd'hui, il fonctionne sur deux ordonnances. L'ordonnance de 45 en délinquance et l'ordonnance civile de protection de l'enfance du 23 avril 1958, dont l'essence a été intégrée dans les articles 375 et suivants du Code civil. Au jour d'aujourd'hui, on en est là. Ensuite, atténuation de la responsabilité du mineur pénal en fonction de l'âge, réduisant le quantum de la peine. C'est déjà l'ordonnance de 45. Le mineur est jugé. A-t-il moins de 13 ans? A-t-il moins de 16 ans? A-t-il entre 16 et 18? Au tribunal pour enfants entre 16 et 18, le tribunal peut décider qu'il enlève l'excuse atténuante de minorité et peut le juger comme un majeur. D'une manière générale, les mineurs de 16 à 18 ans, quoi qu'ils aient fait, sont toujours jugés en tant que mineurs. L'excuse atténuante, je l'ai vu très très peu de fois dans ma carrière, retirée, même chez des criminels. Troisièmement, alors elle veut augmenter les moyens, évidemment, des magistrats, certes, mais sans greffier, ça ne sert à rien. Donc il faut des greffiers. Et les greffiers, il en manque beaucoup. Et puis, alors c'est là où, à mon avis, le bât blesse, elle parle de financement, mais elle ne parle que du financement du secteur privé, habilité. Donc je sens là une espèce de privatisation du secteur public de la rééducation. Et ça, ça va à l'encontre de la réforme de l'ordonnance de 45, qui voulait un secteur public fort, et un secteur privé très contrôlé. Là, je suis un peu inquiet. Je pense qu'il y aura quand même des amendements à ce nouveau code pénal des mineurs. Alors, elle parle des états généraux de l'hébergement. C'est vrai que l'hébergement, c'est-à-dire l'internat, le placement, c'est devenu très problématique parce qu'on n'est plus en 1950, on n'est plus en 1970. Donc, faut savoir comment on va faire. Je vois une dérive qui est de dire on ne fait pas d'hébergement, mais on les place dans des familles d'accueil. C'est-à-dire qu'on va payer peu cher des familles d'accueil avec un prix de journée très important qu'embaucheront un certain nombre d'institutions. Ça me paraît une dérive difficilement supportable. Alors elle ajoute qu'elle veut un système unifié des logiciels des suivis de mineurs, parce que évidemment, j'ai été à un moment donné nommé membre du Conseil national de la statistique du ministère de la Justice. Il y avait 9 sources. Aucune ne correspondait. Quand nous, on établissait nos statistiques civiles et pénales au niveau régional, à partir des données départementales, avec la pénitentiaire qui recevait un certain nombre de jeunes, avec la police, avec la gendarmerie, avec la chaîne civile, avec la chaîne pénale des cours d'appel, rien ne correspondait. Donc vouloir un système unifié, je souhaite bien du plaisir aux informaticiens, ça va être très difficile. Alors on parle de la suppression de l'instruction. C'est-à-dire que dans l'ordonnance de 1945, on a prévu que le juge des enfants peut instruire. Mais lorsqu'il s'agit d'une affaire criminelle, d'une affaire mixte, c'est-à-dire majeur-mineur, ou d'une affaire où le mineur est très très impliqué, on nomme le juge, le parquet, voilà, nomme un juge d'instruction. Suppression de l'instruction, ça veut dire que ça sera le juge unique qui instruira, jugera au pénal, comme il le fera au civil. Je suppose, parce que ça n'est pas détaillé dans la présentation du projet gouvernemental. Et évidemment, in fine, qu'est-ce qu'on trouve? Les centres fermés.
Qui reviennent.
Oui, et alors là, on ne nous dit pas que ça va être expérimental. On nous le dit un peu comme si c'était le droit commun. Alors, il est vrai que tous les gardes des Sceaux ont envoyé des tas de gens faire des tours d'Europe, voire du monde. Dans tous les pays, les mineurs sont traités à peu près comme en France, parce que l'ordonnance de 1945 avait inspiré, en gros, tous les droits pénaux pour les mineurs en Europe. Ça a été des calques. Alors, l'audience de mise en examen est supprimée. D'où le prononcé d'une mesure éducative judiciaire unique avec un contenu modulable dans le temps. C'est-à-dire que le juge dira dans son ordonnance ce qu'il autorise et ce qu'il n'autorise pas. Et le temps entre l'audience de culpabilité et l'audience sur la peine est occupé par une mise à l'épreuve éducative. Et alors ça sent quand même le pénal, le vrai pénal d'antan que j'ai connu, moi, quand j'étais délégué permanent à la liberté surveillée au tribunal de Rouen. L'ordonnance de 1945 avait prévu la liberté surveillée, vous l'avez entendu tout à l'heure, déjà à partir de 1912. Donc là, étape déterminante pour décider d'une sanction adaptée à la personnalité. Alors, je me demande si on ne va pas vers un contrôle un peu formel. Hein ? On aura des noms, ils viendront convoquer, alors que nous, on se déplaçait dans les familles, il fallait connaître. Là où on vit, l'instituteur, quand j'étais à l'ALS, l'instituteur, la famille, les voisins, le club de sport. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il est? Comment vous le voyez? Comment pouvez-vous l'aider? Je crains que ce soit un contrôle un peu formel. Voilà le projet du gouvernement.
On a beaucoup parlé, échangé avec Jean Guéry, éducateur, partisan de l'éducatif, qui porte un regard critique sur le répressif. Mais Jean Guéry, le citoyen, vous avez quand même dû vous rendre compte que toute la population qui vient dans ces centres éducatifs fermés ou moins fermés, c'est quand même des jeunes, des mineurs d'une classe sociale. Vous ne voyez pas de petits bourgeois, vous ne voyez pas d'enfants de riches. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait aussi un travail à faire en amont, au niveau sociétal, pas forcément, et ce n'est pas forcément de domaine de l'éducateur. Là, hein.
Voilà, c'est le débat de la gauche.
Voilà.
Donc, effectivement, je suis engagé de ce côté-là. J'allais dire de pratiquement depuis ma naissance. Hein.
Et oui.
J'ai tété ça au biberon. Mais ceci étant dit, mon ami Bernard Hémaux avait une image qui m'intéressait. Il disait, quand on déménage, on emballe précautionneusement les objets qu'on pense être précieux, mais dans la caisse des assiettes ébréchées, des couverts écornés, on ne met pas grand-chose, un journal dessus. On cloue et on déménage. Il dit, la société, c'est ça. Les mineurs, ceux que nous avons en charge, ils sont dans cette caisse. Les autres, ils sont dans les autres caisses, bien emballées, précautionneusement.
Merci beaucoup, monsieur Jean Guéry. Merci, Vélias aussi.
Pour approfondir les thèmes évoqués par Jean Guéry, des informations complémentaires sont disponibles en allant sur la page Dissonance des sites de Radio Centrafrique ou de dissonance.ovh.
Cette émission est rediffusée sur les antennes de Radio Centrafrique
mercredi 29 janvier
à 8h
et samedi 1er février
à 16h. Vous pouvez la télécharger à votre guise en allant sur le site de Radio Centrafrique, page Dissonance.
Et aussi sur celui de dissonance.ovh.
Salut
et fraternité.
There's a better world to come and tell you why. There's a better world to come and tell you why. We will feed 'em on the land, on the sea and in the sky. There's a better world to come and tell you why. There's a better world to come and don't you see. There's a better world to come and don't you see. When we'll all be union and we'll all be free. There's a better world to come and don't you see. There's a better world a coming, and don't you know, no. There's a better world a coming, don't you know. I'm a union man in a union war. It's a union world I'm fighting for. There's a better world a coming, don't you know. There's a better world a coming. There's a better world a coming. There's a better world a coming. I'll tell you why. Don't you see, and don't you know. There's a better world that's coming, tell you why. Better world that's coming, tell you why. Out of marching, out of battling, you can hear the chains are rattling. There's a better world that's coming, tell you why. Now there's a better world that's coming, and there's a better world that's coming, and there's a better world that's coming, and tell you why. There's a better world that's a-coming, I'll tell you why. There's a better world that's a-coming, I'll tell you why. We'll beat 'em on the land, in the sea and in the sky. There's a better world that's a-coming, I'll tell you why. Well, there's a better world that's a-coming, don't you see. Better world that's a-coming, don't you see. When we'll all be union and we'll all be free. There's a better world that's a-coming, don't you see. Thank you. There's a better world a coming, don't you see, see, see. Better world a coming, don't you see. When we'll all be union and we'll all be free. There's a better world a coming, don't you see.